Merci et bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Charlotte,
oui.
Charlotte, elle voit autre chose. Charlotte, elle apprend le piano. Et elle lit la poésie. C'est pas parce qu'elle aime son papa et ses disques et sa notoriété et tout ce que ça apporte, le blé que ça implique. Encore que je veux pas en faire une enfant trop gâtée. Dans tous les sens du terme. Je tiens à ce qu'elle ait une éducation de base. Voilà.
Ben, merci Charlotte Gainsbourg de nous accueillir chez vous.
De rien.
Et comme chaque soir, on va commencer en musique. Alors, je vous propose de commencer par Bob Dylan, Lady Lily.
Lay across my big breast bed. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you. And you see them shine. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day. Let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
Alors, j'ai choisi cette chanson parce que, voilà, je sais que vous l'avez écoutée toute petite.
Pas toute petite, mais... C'est mon père qui m'a conseillé de... Enfin, c'était pour lui la seule chanson qu'il fallait que j'achète. À cette époque-là, on achetait encore des disques ou des cassettes, je ne sais plus. J'ai dû acheter une cassette. J'ai aimé cette chanson depuis toujours, et donc elle m'a toujours accompagnée, je m'en suis jamais lassée, et je comprends ce que mon père voulait dire.
Et ensuite, des décennies plus tard, vous avez joué dans un film magnifique de Todd Haynes, une des amoureuses de Bob Dylan, il n'y a pas de hasard.
Ouais, c'était marrant. C'était marrant aussi de, parce que je connaissais pas vraiment sa vie, et puis je trouvais ça, c'était une belle manière de faire un biopic. C'était très original d'avoir toutes les facettes d'une personnalité. C'est vrai que c'est un souvenir très particulier, en plus parce qu'il m'a choisi très en amont, sans jamais m'avoir rencontré. Il y avait un truc de confiance qui arrive quand même très rarement, surtout avec un Américain. En plus, c'est le premier film où j'ai fait appel à un coach, parce que j'avais une trouille bleue. Et depuis, je ne m'en suis jamais séparée.
C'est quelqu'un coach.
C'est quelqu'un qui m'accompagne sur chaque film. Enfin, pas sur chaque film, pas sur le tournage, mais avec lequel je travaille à chaque fois.
Avez-vous vraiment besoin de coach?
Mais oui, mais enfin, besoin, c'est très enrichissant, en fait. J'ai jamais fait d'école de théâtre, donc j'ai pas de méthode. J'ai jamais su comment aborder un scénario ou aborder un rôle. Et avec cette personne, il m'a juste appris à me poser des questions. C'est surtout ça, il n'y a pas de réponse forcément, mais me poser des questions.
Vous avez pourtant fait des études, Charlotte. Vous avez fait l'école des beaux-arts.
Non, j'ai eu mon bac et après j'ai
c'est
fait...
C'est pas mal déjà.
c'est super. Je suis la seule dans ma famille. Donc je suis très fière.
La seule à avoir le bac.
Ouais.
Mais votre fils, il n'a pas le bac.
Non. Ça ne l'empêchera pas de faire plein de trucs. Mais après, j'ai fait une année d'école préparatoire aux Beaux-Arts. Parce que c'était quand même ça mon souhait. Et ensuite, j'avais quand même 18. Mon agent de l'époque m'a dit que c'était quand même un peu exagéré d'annoncer aux producteurs et aux metteurs en scène que je faisais des films que l'été pendant les vacances scolaires. Donc il m'a dit qu'il fallait quand même que je choisisse. D'une manière ou d'une autre, quoi, soit actrice, soit faire des études.
Mais avez-vous vraiment choisi dans votre vie ?
Non, je m'accommodais de ce qu'on me proposait, en fait. Et sans avoir besoin de choisir, c'est ça que je voulais pas faire. Et en faisant cette école de dessin, c'est ça que j'espérais, c'était pouvoir continuer le vague, voilà, que ce soit qui est plein de zones d'ombre et que ce soit pas un métier à part entière.
J'ai vu l'album magnifique qui va sortir sur votre univers. Vous continuez à dessiner, manifestement.
Oui, mais pas très bien. En fait, j'ai des profs qui m'ont appris, et je me pose des questions en ce moment, parce qu'ils m'ont appris à dessiner que à partir de figures réelles, c'est-à-dire pas sans s'appuyer sur des photos ou des... Et ça me pose énormément de problèmes parce que j'ai pas de modèle.
Donc alors qu'avant, quand vous étiez jeune fille, vous aviez travaillé avec des modèles.
Ouais, dans cette école, il y avait des modèles, il y avait des nus et c'était incroyable pour ça. Ici, j'ai trouvé un cours où il y a des nus aussi, mais c'est pas ça, pas seulement ça que j'aimerais dessiner. Voilà, je voudrais arriver à faire autre chose que des autoportraits ou des nus ou mes enfants endormis parce que j'ai le temps. Voilà, c'est tout ce que je sais faire. J'adorerais avoir un coup de crayon, être rapide. Mais de toute façon, la rapidité, c'est un truc qui me manque beaucoup dans tous les domaines.
Mais pourquoi vous vous dévalorisez comme ça ?
C'est pas se dévaloriser, mais c'est que je suis lente. J'ai besoin de temps. Je peux rien faire sous la pression. Ça me réussit pas trop.
Mais c'est peut-être une immense qualité, vous savez, la lenteur et de savoir où on va et de décider lentement.
Oui, j'aime bien l'étude, en fait. Donc, j'aime bien refaire la même chose sans fin, quoi. Les dessins, c'est vrai que c'est des études sans fin. Enfin, quand c'est des autoportraits, c'est le même physique que je fais et que je refais. Et puis, bon, bah, les scènes, c'est un peu pareil, c'est vrai.
Donc, vous aimez bien recommencer.
Ouais, justement, savoir qu'il y a la possibilité de recommencer. C'est ça qui m'aide, en fait.
Donc ici, à New York, on est dans votre cuisine. Elle est super sympa, d'ailleurs, votre cuisine. C'est une maison new-yorkaise, comme dans les films de Woody Allen. Et tout en bois, ancienne, on voit le soleil et les gens qui marchent dans la rue. On voit les trois quarts de leur corps parce qu'on est dans ce qu'on appelle le basement, le chat qui arrive. Donc, vous êtes venue vivre à New York pour être étudiante en beaux-arts, finalement?
Non, je n'ai pas commencé par ça en arrivant ici, mais j'ai écrit des textes. Et donc, j'avais commencé à Paris, mais c'est ici que j'ai osé les montrer, les assumer aussi, les chanter. Et puis, j'ai repris le dessin que j'avais quand même un petit peu abandonné à Paris. Et je me suis mise à faire des photos. Ça aussi, j'avais abandonné depuis très longtemps. J'en faisais et je développais moi-même, mais à 16 ans, un truc comme ça. Voilà, donc je me suis remise à tout faire, pas forcément de manière professionnelle, parce qu'en fait, ici, j'avais l'impression que tout le monde est un peu artiste, tout le monde fait du dessin, de la photo, des vêtements. Voilà, j'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit.
Mais parlons des photos, elles sont superbes ces photos.
Moi je sais pas dire si elles valent quelque chose ou pas, enfin si c'est des choses de qualité, mais ça traduisait vraiment mon état. Je voulais mettre sur la même page en fait le cimetière de Paris et les rues de New York, parce que c'est exactement ce qui m'habitait cette année-là. Ça traduisait juste tout ce que j'avais dans la tête au moment de faire cet album. Donc c'est pas un vrai livre de photos ni un vrai livre de dessins, mais c'est un livre qui aurait dû accompagner l'album au moment de la sortie, sauf que j'ai pas pu tout faire en même temps. Donc c'est sorti plus tard.
Je voudrais qu'on parle de votre grand-mère paternelle, Charlotte.
Ouais, ma grand-mère.
Olga.
Olga, ouais. Bessman. C'était une personne très, très importante qui m'a beaucoup influencée. Elle est morte quand j'avais 13 ans, donc j'étais relativement jeune, mais on y allait tous les dimanches et c'était une vraie grand-mère à l'ancienne. Elle avait déjà perdu son mari, donc moi, j'ai jamais connu mon grand-père paternel. J'avais une grand-mère anglaise qui était hyper élégante, une actrice, enfin, voilà, et tout ce côté anglais, un peu aristo, alors qu'elle n'était pas du tout aristo, mais elle avait une espèce de classe comme ça. Ma grand-mère russe, c'était pas tout le contraire, mais c'était juste totalement autre chose. C'était une vieille dame déjà, avec un accent russe, avec des formes, qui faisait des pirojki, qui... C'était un vrai, peut-être aujourd'hui, un cliché de la grand-mère russe. Mais c'était quelque chose qui m'a vraiment habitée et après qui m'a tellement manqué. Et je crois que c'est pour ça que j'ai eu une grande attirance vers la religion juive. J'ai eu envie d'être acceptée. J'allais en cachette dans les synagogues le samedi. J'avais essayé de me faire ma propre cuisine de la religion en achetant des bouquins. C'était un peu n'importe quoi, mais...
Je ne disais rien à personne.
Ah non, je disais rien à personne parce que je savais très bien que mon père n'était pas très fan de la religion, quoi. Et mes tantes non plus. Enfin, c'était plutôt quelque chose de tabou.
Donc, c'est votre grand-mère qui vous a parlé de la religion?
Pas du tout. Ah non, pas du tout. Ils n'avaient rien de religieux. Ils fêtaient pas de... Il n'y avait pas de fête. Non, il n'y avait aucune célébration de ce côté-là. Mais
alors,
c'était le seul moyen où j'ai eu une attirance pour, enfin, j'ai eu envie d'être plus proche de ce côté-là. Donc il y avait presque un rejet de tout ce qui était protestant et je faisais semblant aussi parce que comme c'était pas très légitime, enfin c'était légitime mais ça venait de nulle part, je me suis inventé plein de trucs. Mais comme je me suis inventé plein de vies en fait. J'écrivais un faux journal, j'avais une liaison qui était secrète. Enfin voilà, j'avais plein de trucs un peu... J'avais plein de secrets.
Et plein de vies imaginaires.
Ouais. Oui, j'en avais besoin. Je suis aussi partie en pension parce qu'il fallait que je m'éloigne aussi. À chaque fois, c'était des choses que j'ai choisies, mais c'était beaucoup pour m'échapper. Et donc inventer des trucs, des vies d'emprunt.
Bah, faut dire que c'est lourdingue d'être la fille de son père et de sa mère.
Oui, en même temps, c'était lourdingue. C'était pas... C'était pas lourd au moment où j'ai commencé. Heureusement, au moment où j'ai commencé à être actrice, j'avais pas ce poids du tout sur les épaules. Je me rendais pas compte de qui ils étaient vraiment. Je les admirais et je les aimais. Et j'aimais les écouter, les chansons. Enfin, je baignais là-dedans. Mais j'avais pas l'angoisse de me dire, est-ce que je vais être à la hauteur en tant qu'actrice? Est-ce que je vais être à la hauteur si je chante une chanson avec... Enfin, avec mon père, parce que c'est lui qui les écrivait. Il n'y avait pas ce poids-là. Je l'ai eu beaucoup plus tard, quand j'ai vraiment réalisé qui ils étaient. Mais j'avais déjà un pied dedans, donc...
Mais ça veut dire qu'ils vous ont élevé sans vous faire peser sur votre propre existence le poids de leur notoriété. Vous étiez leur fille, et puis point final.
Oui, mais en même temps, on vivait avec. C'est juste que je ne me rendais pas compte, parce que c'était tellement familier, mais... Quand on demandait un autographe à mon père, il me faisait signer. Donc, il signait lui, mais il voulait que je signe avec lui.
Mais c'est beau, c'est comme ouais. Les Lulu quand il est arrivé sur scène dans cet moment mémorable où Serge l'a fait monter. Pareil.
Il n'y avait pas un mur entre sa vie privée et sa vie publique. Tout était mélangé. Donc, on a eu ces dimanches où on était pris en photo. Alors, c'était un peu des faux petits déjeuners pour Paris Match. Et ça nous emmerdait un peu, ma sœur et moi, parce que c'était chiant de faire des photos et que... Voilà. Mais je comprends que ça faisait partie de leur vie. Et il n'y avait rien à cacher. Et jusqu'au jour où ils se sont séparés, où là, il y avait des choses à cacher et c'était moins rigolo. En tout cas, avec mon père, il y avait... C'était normal que je chante une chanson de lui, avec lui. J'ai pas le souvenir qu'il m'ait dit « Est-ce que t'as envie de chanter ?» C'était évident. Et j'ai jamais été forcée. Donc j'aurais pu dire non.
Mais au moment, justement, à commencer l'aventure de Lemon Incest, vous étiez très jeune. Mmh. Est-ce que vous êtes rendu compte de l'érotisme avec lequel, finalement, les personnes, qu'ils soient garçons ou filles, allaient vous regarder? On regardait Serge, on écoutait Serge, évidemment, mais il y avait aussi Charlotte. C'était le paquet cadeau, Charlotte?
Ah non, alors là, j'ai jamais eu l'impression d'être une Lolita. Mmh. Mais jamais, jamais.
Jamais.
Jamais. Mais parce que j'avais pas ça. Non, physiquement, j'avais pas ça du tout. J'avais pas de... Pour moi, j'avais pas de sexualité. Non, pour moi, c'était un rapport père-fille très passionnel, mais avec une vraie... Bien sûr, il joue sur les mots, mais c'était tellement clair entre nous. Voilà, il n'y avait pas de... J'avais pas à avoir peur de quoi que ce soit ou être gênée de quoi que ce soit. Après, il y avait si à l'écran... Moi, j'étais gênée de ce qui montrait ce clip tous les deux, ça m'avait emmerdé, mais parce que je pense que le cinéma pour moi c'était mon jardin secret. Je voulais pas que ça se mélange en fait. Et le jour où j'ai fait aussi Charlotte Forever, c'est pas forcément, je suis heureuse de l'avoir fait parce que c'est un souvenir magique aujourd'hui, mais sur le moment ça m'avait vachement gênée. J'avais une liberté, en fait, sur les tournages quand mes parents n'étaient pas là, que j'ai pas réussi à... Enfin, voilà, j'ai pas retrouvé. Il fallait aussi dealer avec mon père qui buvait beaucoup. Voilà, c'était pas simple, en fait. Ce truc-là n'était pas simple. Mais la vie privée était très simple.
Très jeune, vous avez commencé à voir des films. Vous êtes devenue cinéphile.
Grâce à eux, grâce à mes parents... C'était pas une époque où on bouffait... enfin, moi, en tout cas, et mes parents non plus, ils bouffaient pas du cinéma et des films comme des vrais cinéphiles. Hein. Donc, il y avait des films incontournables. Pour ma mère, elle nous a beaucoup éduqués avec des comédies musicales anglaises, mais américaines, mais qui traitaient de... Enfin, My Fair Lady, c'était plus le côté anglais... Tiger Bay, enfin des films très anglais. Et du côté de mon père, c'était tous les films d'horreur. Vraiment, je les ai vus beaucoup trop jeunes. Ben, ça m'a éduquée.
Du genre quoi, Shining
ou... Ouais, Shining, Jaws. Enfin, Jaws, c'est ma mère, en fait, qui m'a emmenée au cinéma le voir. Alors que, franchement, je crois que c'est sorti quand j'avais 4 ans. Enfin, ça m'a traumatisée à vie. Mais ça, c'était le seul film d'horreur qu'elle m'a montré. Non, lui, c'était Carrie. J'ai pas vu L'Exorciste avec lui. Mais bon, Massacre à la tronçonneuse, enfin, voilà, vraiment des trucs que j'aurais dû ne pas voir. Tous les Chaplin, beaucoup de Les Producteurs, Some Like It Hot, toutes les comédies américaines et les comédies italiennes qu'il adorait. Donc oui, j'ai eu une éducation de... Et puis en même temps, tous les Disney, parce qu'il adorait les Disney de l'époque, hein, donc les anciens. Ouais, j'ai eu une vraie éducation de... Parce qu'en fait, il avait... Quand mes parents se sont séparés, c'est le début de la VHS... Et il achetait tout ce qui sortait. On allait faire des razzias sur les Champs-Élysées. Il y avait Lido Musique, c'est ça? Et on trouvait que des VO. Voilà, donc c'était notre truc du week-end où il avait un grand écran. C'était un truc dément pour l'époque.
Parlons de votre grand-père maternel.
En fait, c'est le deuxième grand-parent que j'ai perdu... Mais mon père est mort 3 jours avant. Donc ça... Ouais. Donc ça... J'ai zappé la mort de mon grand-père complètement. Parce que j'étais tellement cassée par la mort de mon père. J'ai pas vu, en fait. Ma mère, oui. Ma mère, je pense qu'elle a, elle a subi, évidemment, les deux morts coup sur coup. Mais donc... Mais il était très, très présent. J'ai vraiment grandi avec ses deux grands-parents... Et lui qui avait un espèce de cynisme très anglais. Lui, par contre, il venait d'une famille très aristocrate, mais il l'était pas du tout. Et lui dessinait, il dessinait... je pense que c'est lui qui m'a donné le goût du dessin, parce qu'il a fait des tableaux magnifiques. Et il était tellement heureux quand j'ai fait cette école de dessin. Il était hyper fier. Il m'avait filé ses premiers cours, des études sur les couleurs... Et puis, tous les premiers dessins qu'il a faits, c'était beaucoup de sketching. Et ça m'a vachement influencée. Et c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier parce que j'ai les figures de mes grands-mères qui sont plus présentes. Et parce qu'il est mort quand même il y a longtemps. J'ai pu voir ma grand-mère aussi sous différents angles, en fait, avec lui. Et puis, d'un seul coup, sans lui, où elle s'est mise à aller au théâtre tout le temps et à assumer une vie d'actrice beaucoup plus qu'avec lui, où il la freinait complètement. Et, voilà.
Et puis, n'oublions pas qu'il a été un héros de la Résistance. François Mitterrand disait souvent, il l'a décoré. Ouais. Et il l'a dit, d'ailleurs, dans son discours à l'Élysée, que... Il l'avait aidé à franchir la Manche pour aller en Angleterre, pour suivre sa propre résistance. Il l'admirait énormément.
Ben, il a fait des choses héroïques. Hein. Quand ma mère a acheté une maison en Bretagne, tout près de là où son père, justement, aidait beaucoup d'Anglais aussi à retrouver l'Angleterre, c'est dément de voir la proximité, donc le danger, les nuits de sans lune... où il fallait pas allumer une clope. Enfin, les Allemands étaient à quelques mètres. C'était effrayant. Donc oui, il a fait des choses démentes.
Mine de rien, sans jamais tellement l'exhiber.
Il s'en est jamais vanté, en fait. Je sais pas. Non, ma grand-mère paternelle parlait de la guerre parce que c'est les histoires qu'on voulait entendre aussi du côté français, de s'être caché. Enfin, il y avait quelque chose de tellement dangereux. Et j'étais beaucoup plus proche de ces aventures-là qu'ils avaient vécues, où heureusement, ils n'ont pas eu trop de morts. La famille s'est tellement réduite quand ils sont partis de Russie en 1917. Il y avait un tout petit noyau à Paris. Donc, ils ne savent pas trop qui ils ont perdu réellement. Mais donc, on avait ces récits de guerre. Et pas trop par mon grand-père. C'est vrai qu'il en a peut-être beaucoup plus parlé à ma mère. Mais moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. C'est ma mère qui m'en a parlé, en fait.
Alors, vous avez évoqué le judaïsme et cette manière que vous aviez eue dans l'adolescence d'essayer de trouver des repères dans cette culture, cette civilisation, pas forcément cette religion. Il se trouve que votre compagnon, votre amoureux, le père de vos enfants, Yvon Attal pour ne pas le citer, a fait un film il y a quelques années sur son appartenance au judaïsme. Un film qui a d'ailleurs été controversé parce que certaines personnes disaient qu'il exagérait à propos d'un antisémitisme qui montait en Europe et particulièrement en France, et d'autres au contraire ont soutenu formidablement ce film et son mode d'expression d'une réalité un peu sous-estimée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui, en 2019 ?
Il a eu raison de le faire, c'est quelque chose qui portait et qui portait en lui depuis longtemps, dont il m'a toujours parlé. Et il avait raison, c'est un vrai danger qui fait partie du paysage français, quoi. Donc je trouve qu'il a eu vraiment raison. Après, j'ai pas vécu ce qu'il a vécu au moment de la sortie. Je sais que la sortie a été très douloureuse. Mais j'étais déjà ici, en fait. J'étais aux États-Unis et j'ai pas du tout partagé ça. Même si j'avais fait un petit épisode, enfin, un des sketchs avec Danny Boone, où je m'étais beaucoup amusée. Parce que c'était une comédie, hein. Faut pas oublier qu'il avait gardé son ton de... Justement, il en parlait avec beaucoup d'humour. Il parlait d'une chose très sérieuse et très actuelle, mais avec beaucoup d'humour. Et ça a pas du tout été bien compris.
Alors, à l'heure bleue, à un moment, il y a ce qu'on appelle le choix musical de l'invité. J'ai oublié de vous le demander, mais vous avez peut-être une chanson que vous avez envie d'écouter. Ça peut être une des vôtres, hein.
Non, il n'y a pas longtemps, je me suis remise à écouter beaucoup Bowie. Puis lui aussi, alors, c'est quelqu'un que mon père aimait tellement. Enfin, j'ai écouté beaucoup de musique grâce à mon père, hein. Donc, je pense que beaucoup de personnes écoutent du Bowie.
Played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. Became on so loaded, man. Well hung in snow white tan.
Alors, dans votre maison, quand on rentre, il y a un grand piano.
Ouais. En fait, c'est un piano que j'ai acheté sans en connaître le son. Oui, malheureusement. Malheureusement, parce qu'il ne sonne pas très bien. C'est quand même un Steinway. Mais je l'ai acheté pour faire le musée de mon père. Parce que son Steinway n'est plus dans la maison. Et donc, je veux faire un musée de la maison de mon père. Et je l'ai mis donc là-bas et c'était censé juste être un objet visuel. C'est pour ça que je ne l'ai pas essayé. Et puis, j'étais occupée à faire plein d'autres trucs à ce moment-là. Donc, quelqu'un d'autre s'en est chargé pour moi. En tout cas, je suis arrivée à New York. C'était pas dans cette maison-là. On avait une autre maison qui était immense. Et je me suis dit, mais si je veux me faire plaisir, j'ai envie d'un piano à queue. Et donc j'ai fait venir ce piano qui n'avait pas d'utilité rue de Verneuil vu que ce n'était pas encore un musée. Donc je me suis dit que je pouvais en profiter un petit peu. Et je l'ai fait venir. Et quand je me suis mise à jouer dessus, il a un son terrible. J'ai été très très déçue. Très déçue. Mais mon père m'a acheté un piano exceptionnel. C'est un Steinway qu'il m'a acheté quand il était vivant. Donc, à quel âge j'avais ? 18 ans. Quand j'ai acheté mon premier appartement avec mes sous à moi de mes premiers films, il m'a aidé, avec ses sous à lui, à décorer mon appartement. Et il m'a acheté un Steinway en piano droit. Et il a un son incroyable, incroyable. Mille fois mieux que mon piano à queue.
Mais il est où ?
Il est à Paris. Alors, oui, parce que j'ai une maison à Paris.
Vous l'avez gardé ?
Ouais, on a notre appart. Et c'est chez nous. Ici, c'est pas chez moi. Je considère pas New York comme c'est pas chez moi.
Et vous allez le faire, ce fameux musée Gainsbourg, alors rue de Verneuil ?
Je croise les doigts, oui. J'ai l'impression que ça va se faire, j'espère, le plus vite possible. Mais oui, je pense que je suis enfin bien lancée.
Alors parlons du dernier album. J'espère qu'il y en aura un autre bientôt. Mais en tout cas, celui-là, il est resté dans nos mémoires. On écoute vos chansons, Charlotte, c'est comme ça. Hein. Vous aimez pas beaucoup, mais nous, on vous aime infiniment. Je voudrais parler de l'écriture des chansons et de l'écriture notamment de cette frontalité par rapport à la mort et de cette chanson que vous avez composée pour votre père au bord du cercueil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous l'aviez en tête depuis extrêmement longtemps ? Est-ce que c'est venu en composant ?
Je voulais écrire, je crois que j'avais envie d'écrire sur lui. Ça m'habitait depuis... Enfin, s'il y avait une chose dont je voulais parler, c'était lui. Mais c'était un rapport... C'est quand même la dernière image que j'ai eue. Et c'est une des plus terribles, enfin, avec laquelle j'ai eu à vivre. Et en même temps, c'est celle que, en anglais, on dit « to treasure », chérie. Ça paraît bizarre, mais... Enfin, j'étais pas la seule, avec ma sœur Kate et Bambou. Et ma mère qui nous a rejoints parce qu'elle était avec son père. On a dormi avec lui, en fait. C'était nécessaire pour moi. J'étais réellement allongée à côté de quelqu'un qui était froid. Je voulais parler de ça. Et en même temps, c'est une déclaration d'amour parce que j'avais un amour infini pour mon père. Et j'ai été détruite au moment de sa mort. Donc, c'est la chose dont je parle le moins. Et en écrivant une chanson, il fallait que je parle de quelque chose qui m'habitait et dont j'avais jamais parlé, peut-être. Mais elle était très facile à écrire, en fait, cette chanson. Bon, c'est vrai que tout cet album tournait autour de la mort, mais je venais de vivre de plein fouet la mort de ma sœur, et c'était... Je voulais pas parler d'autre chose. Et j'avais pas l'impression d'être... même la chanson de mon père, pour moi, c'était pas... Je voulais pas écrire de manière mièvre. Donc j'allais pas écrire une chanson d'amour mièvre. Il fallait que ce soit cru. Pour moi, c'était par là que passait la déclaration d'amour.
Votre sœur, Kate, était photographe. Kate avait énormément de talent. Elle savait tout faire. Elle savait voyager. Elle savait regarder la réalité. Elle savait observer le monde. Elle avait eu une histoire dont votre mère Jane avait parlé. Elle s'était sortie de toutes les embûches. Elle était énormément, vachement heureuse.
À sa mort, en fait, j'ai vu toutes les personnes qu'elle connaissait, que moi j'avais pas vues ou entendu parler, mais elle était aimée, elle avait sauvé des gens, elle avait accompagné des personnes. Voilà, c'était un vrai ange gardien de tellement de monde. J'ai vu ça à son enterrement. Mais ça ne m'étonnait pas du tout, en fait. C'était mon ange gardien à moi, c'était l'ange gardien de pas mal de personnes, voilà.
Aujourd'hui, le film de Yvan Attal, à l'intérieur duquel vous êtes, Charlotte Gainsbourg, va sortir dans quelques semaines. Il s'appelle « Mon chien stupide ». C'est une adaptation extrêmement ironique et joyeuse de ce livre de John Fante. qui met en scène une famille en crise et un écrivain en crise. Cet écrivain, il est en crise parce qu'il a l'impression qu'il n'aura plus de talent, il n'aura plus d'intuition, il n'aura plus de possibilité de continuer sa vie. Et vous, vous êtes la femme qui le supporte. Et c'est un film, on peut dire que c'est un film familial. Parce oui. qu'il y a Yvan, oui. qui joue le rôle de John Fante, qui est quand même ce livre qui est extrêmement puissant. Et le film retrace cette puissance et cette drôlerie. Le texte de Fante est autobiographique. Et évidemment, quand on vous voit à l'écran avec en plus votre propre fils, votre fils à vous deux, on se dit, y a une tradition du cinéma familial, finalement.
Ça s'est fait comme ça, le fait que notre fils était... qu'Yvan l'ait choisi et qu'il ait eu envie de le faire aussi, enfin, que Ben ait eu envie de le faire.
Il est bon, hein ?
Il est bon, oui. C'était pas signé d'avance, ça, par contre, c'est arrivé au moment du casting. Mais je pense qu'il a fait un film très personnel... basé sur une histoire qui vient pas de lui. Enfin, il est très très fidèle à Fante, très fidèle à l'état d'esprit de Fante, à son cynisme et toute son ironie et son humour noir. Enfin, donc c'est une comédie noire sur la famille, mais ça correspond à Yvan. Vraiment, je trouve que c'est plus noir qu'il ne l'est.
Mais c'est drôle aussi.
C'est tellement drôle. Enfin, il a su en faire quelque chose de très, très original. De parler de la famille comme ça, je trouve ça très original, oui. Et très touchant, quoi. Parce que ça commence sur le ton d'une comédie, et puis ça bascule dans des eaux un peu plus émouvantes, plus touchantes.
Et le cinéma, ça va continuer. À l'occasion de notre rencontre, j'ai revu... certains films avec vous de Lars von Trier. J'ai revu Mélancolia, mais j'ai vu le dernier Nymphomaniaque. Où là, Charlotte, vous faites une performance. Eh ben, d'une certaine façon, je trouve que Lars von Trier vous a permis de faire une autobiographie. Avec l'image, avec votre propre corps, avec votre manière de mettre les cheveux, de vous cacher tout en vous dévoilant un tout petit peu.
J'ai pas du tout pensé à ça comme ça, mais oui, bien sûr, c'est... Lars a jamais été intéressé, enfin, avec moi en tout cas, à l'idée que je compose un personnage. C'était jamais ça l'idée, c'était de me dévoiler le plus possible, mais pas de manière... pas physiquement, c'est aussi dans mes émotions. Enfin voilà, il voulait aller creuser là où ça fait mal... Et je le faisais avec grand plaisir. Donc, sur chaque film, ça a été très différent. La découverte sur Antéchrist, c'était vraiment... c'était ça, c'était une découverte d'une manière... une méthode de travail très particulière.
Et de hurler dans la forêt, quand même. D'ailleurs, vous êtes absolument extraordinaire dans ce film.
Mais je me suis tellement défoulée. En fait, je venais d'avoir un accident à la tête, à la suite d'une chute en ski nautique. J'ai eu un accident très grave à la tête. Et ça m'a permis de zapper, de passer à autre chose et d'être à fond dans quelque chose de... qu'on s'autorise pas tous les jours. C'est vrai que hurler dans la forêt et d'agresser son compagnon comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc j'étais très très heureuse de ce tournage parce que j'ai réalisé une fois que ça s'est arrêté que j'allais retrouver une vie normale, sans cris, sans hurlements, sans violence, et que ça m'avait été très utile. Le deuxième, c'est pour moi le tournage le plus pénible, bizarrement. Il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de scène d'amour, et rien du tout. Mais c'est là vraiment qui m'a poussée le plus loin dans un mal-être et une... D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à ma sœur en jouant ce rôle. Je ne sais pas, dans mes peurs, dans... Voilà, c'était très 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 désagréable comme tournage. Et Nymphomaniaque, c'était le plus facile. Parce que j'ai failli ne pas le faire. Yvan perdait son père au moment du tournage et j'ai demandé à Lars de sortir du film, de ne pas le faire. Et les producteurs m'ont dit que ce n'est pas possible. J'avais signé un contrat et je ne pouvais pas sortir du projet. Donc je faisais que des va-et-vient vers la France. J'avais pas trop la tête dans le film. J'avais un petit bébé en plus qui venait de naître. Je l'allaitais, donc je faisais des scènes de cul, des trucs monstrueux, de laideur. Enfin, on m'avait mis des prothèses entre les jambes. Enfin, c'était vraiment gore.
Donc en fait, nous on a l'impression que vous êtes nue, mais vous l'êtes pas.
Non, je l'étais pas. Donc j'avais aucun problème à être nue, parce que c'était pas mon corps. Et en plus, c'était coupé avec plein de plans de filles qui étaient des actrices de films porno. Donc, c'était vraiment pas moi. Mais bon, bien sûr, il y a des scènes où c'était douloureux, parce que c'est toujours là-dedans qu'on va avec lui. Mais il a été très, très bienveillant, en fait, sur ce tournage. Très doux, très... Comme il savait ce que j'étais en train de vivre, il était très, très affectueux. Et voilà, on l'a fait vraiment en essayant de se marrer aussi, parce que c'était tellement extrême, justement, cette femme qui vit ses déboires de sexuels. Et puis après, on a fini le tournage avec toutes les scènes de blabla, en fait, qui est toute la narration du film, où on avait des tonnes de textes à apprendre. On pouvait pas les apprendre, donc on avait des prompteurs de tous les côtés, enfin, et c'était un peu ça a été une gymnastique de fin de tournage un peu particulière, donc très originale aussi comme film. Mais je me suis jamais dit que c'était des portraits de moi. Pour moi, je faisais des portraits de Lars.
Alors, dans votre vie cinématographique, Charlotte, vous avez rarement, mais vous avez sollicité d'être dans certains films.
Pas beaucoup, hein.
Pas beaucoup.
Dernièrement, j'ai écrit à Arnaud Desplechin pour lui dire que je voulais travailler avec lui, et il avait un scénario sous le coude. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu à ma demande.
Mais vous êtes superbe dans le film d'Arnaud Desplechin.
Bah, c'est gentil.
Et vous avez pas un rôle facile?
Non, c'est vrai que c'était pas facile.
Et là aussi, vous êtes mélancolique dans le film.
Oui. Après, moi, je sais pas apprécier les films dans lesquels je suis. J'ai adoré rencontrer Marion. Voilà, c'est toujours intéressant de travailler avec des personnes qu'on admire depuis longtemps. Donc voilà, Arnaud, c'était quelqu'un que j'admirais et dont je rêvais de travailler avec. Et j'en ai profité. Après, qui d'autre, à qui j'ai sollicité? Enfin, il y avait le film de Marion Vernoux, où c'était pas écrit pour moi. En fait, La promesse de l'aube, c'est pas moi qui ai sollicité Éric Barbier, mais c'est des circonstances qui ont fait que l'actrice qu'il avait prévu d'avoir ne faisait plus le film, donc il me l'a proposé. Et pareil, Antichrist, c'était pas censé être pour moi. Donc il me l'a proposé là aussi de manière imprévue. Il m'a pas choisi tout de suite, Lars.
Bah, il vous a choisi quand même, hein, Charlotte.
Oui, bien sûr, mais il a fallu. J'ai pas passé des essais, mais j'ai eu à le convaincre après une rencontre. Je me souviens que j'ai appelé ma mère parce que elle était toute contente pour moi, parce qu'elle savait que je l'admirais beaucoup. C'était un gros truc d'aller à sa rencontre. Et je suis sortie de notre rendez-vous dépitée, parce que il avait fait que me poser des questions sur si j'avais eu un état dépressif avant, c'était pas le cas. Si j'avais eu des crises d'angoisse, non. Donc j'avais l'impression que j'étais pas du tout à la hauteur de l'état du personnage, et donc qu'il allait pas. Il avait en plus un regard vachement fuyant, donc. J'avais l'impression de ne pas lui avoir plu du tout. Donc j'ai appelé ma mère en disant non, ça va, malheureusement, ce ne sera pas pour moi. Et quelques jours après, il m'a appelé. Voilà. C'est le bon.
C'est peut-être aussi que vous avez les compétences et le talent, Charlotte. Parce qu'il y a aussi des fois, vous êtes...
Non, parce que je ne sais pas ce qu'il avait vu de moi. Je crois qu'il a eu confiance, mais il ne m'a jamais dit qu'il avait vu un film dans lequel j'ai bien joué. Au contraire, hein. Enfin, il m'a pas dit que j'étais nulle dans un film, mais c'était une prise de risque, j'ai l'impression. Parce qu'il me faisait signer un papier comme quoi j'allais accepter d'être nue à trois reprises, filmée de tel angle. Parce que, voilà, il voulait vraiment pas que je lui claque dans les mains et que j'assume vraiment le rôle jusqu'au bout. Donc c'était plus, j'avais l'impression qu'il cherchait plus une actrice qui ose le faire, plus qu'un talent. Il n'était pas très satisfait, il n'avait pas l'air d'être très satisfait au moment du tournage. Et j'avais vraiment beaucoup de doutes. Je suis allée le voir en lui disant que j'étais mal, quoi. J'avais l'impression d'être nulle. Et il m'a dit, oui, mais c'est ma manière de travailler. J'ai besoin que tu ailles dans cette direction, et puis dans la direction opposée, et puis là, et puis là. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression que j'ai ce qu'il faut. Mais il ne vous fait pas sentir qu'on a fait une prouesse. Ou... c'est pas du tout ça. On explore.
Bah, c'est un peu comme vous, hein?
Oui, c'est maintenant, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'aime faire, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de me pousser à explorer, parce que c'est pas possible de le faire avec un metteur en scène qui est tout de suite satisfait d'une prise ou qui est pas très demandeur. J'ai besoin d'avoir la complicité d'un metteur en scène, je sais pas faire ça toute seule.
Dans La Promesse de l'Aube, vous êtes complètement métamorphosée. Vous avez un débit de parole beaucoup plus rapide que dans vos autres rôles. Vous avez un corps qui est transformé. Vous avez une espèce d'angoisse qui est le rôle de La Promesse de l'Aube, l'adaptation du texte de Romain Gary. C'est assez rare qu'une jeune actrice, vous avez quoi, 40 ans ?
47.
Oh, 47. Ah. Mais là, vous affranchissez complètement de l'image, de votre image. Et de tout, quoi.
J'ai jamais eu un rôle où je me suis amusée autant. Jamais, jamais, jamais. Mais on m'a jamais fait confiance comme Eric m'a fait. La confiance qu'il a eue. Enfin, quand j'ai dit à des personnes avant que le film ne sorte que j'avais joué la mère de Gary dans La Promesse de l'Aube, les gens ne me croyaient pas et trouvaient que c'était une idée vraiment bizarre. Alors que pour moi, le rôle, il était tout prêt. Alors, j'ai parlé de ma grand-mère paternelle, j'ai essayé de jouer au plus proche du souvenir que j'avais d'elle. Son accent, la manière de fumer, bon, c'était plus mon père, et voilà, des cigarettes sans filtre. Mais je me suis amusée parce qu'il y avait un rôle, parce que c'était comique, et j'avais l'impression d'amuser Eric aussi. Le fait de se grimer, de s'en foutre complètement d'être séduisante ou pas, au contraire, de jouer une vieille, grosse, de s'en laidir si possible, ça m'avait libérée, complètement libérée. Et j'ai adoré ça.
Et maintenant, vous remplissez pas les agendas des lendemains, vous attendez?
Non. Oui, j'ai quand même souvent l'angoisse du long terme. J'ai des films en court terme. Voilà, j'ai un projet qui me plaît énormément, que je vais faire, qui sera le prochain film. Normalement, je tourne avec Benoît Jacquot, donc je suis contente. Je l'adore. Et puis, c'est un très beau scénario. Donc, voilà, j'ai ça. Mais après, bon, si, j'ai un petit rôle dans un film américain, mais ça va pas très loin. Donc, j'ai de quoi être angoissée, en fait. Heureusement que j'ai la musique, en fait, parce que j'ai déjà la tête dans un nouvel album et que ça m'occupe et ça me demande énormément de temps. Donc, heureusement que j'ai ça. Heureusement que je suis pas que actrice, parce que sinon, je serais extrêmement malheureuse. Parce que je ne sais pas être à la naissance des projets. Je ne sais pas lire un livre et me dire « Ah, c'est ça que je veux jouer » ou « Je suis faite pour jouer tel rôle ». Je n'ai pas assez confiance en moi pour faire ça.
Vous ne savez rien faire, quoi.
Je ne sais rien faire.
Alors, on va se quitter en réécoutant cette chanson que j'écoute en boucle, comme de nombreuses autres personnes qui nous écoutent, et qui à chaque fois me fait le même effet, et je ne sais pas pourquoi. Donc, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer sur les circonstances de sa création, c'est Reste. Qu'est-ce qui se passe dans Reste ?
Reste, c'est une chanson très à part, parce que c'est la première que j'ai enregistrée, elle faisait pas partie de l'album de Sébastien. Et entre-temps, j'ai vu Guiman, des Daft Punk. Je rêvais de travailler avec lui, ma sœur venait de mourir. Il m'a accueillie chez lui, et m'a fait écouter une boucle hyper simple, mais qui m'a complètement habitée. Et après, je suis allée le voir avec toute ma tonne de paperasse. J'avais écrit, bien sûr, plein de trucs, mais c'était pas en forme encore. Il n'y avait pas de texte réellement abouti. Et il m'a dit, non, mais il y a trop, il faut un truc hyper simple pour cette chanson. Donc, on a complètement adapté mes textes, on les a réduits, et on en a fait quelque chose d'infiniment naïf, mais c'était complètement mon état du moment. Et je pense le sien aussi, en fait.
Merci beaucoup, Charlotte, de m'avoir accueillie dans cette maison, dans cette superbe cuisine. Merci encore Charlotte Gainsbourg de m'avoir accueillie par cette belle après-midi d'automne dans votre petite maison de New York. Vous pourrez retrouver Charlotte fin octobre dans le nouveau film d'Ivan Attal, une interprétation du livre de John Fante, Mon chien stupide. Merci à Jean-Baptiste Audibert, merci à Élodie Royer, Adrien Nazelli et Louise Douillet. Et merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka. Mishka Assayas, le grand Mishka, il n'y en a qu'un. Il vous entraînera dans son Very Good Trip.